Ngiyanibingelela nami ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu.
Je voulais aussi également remercier le Seigneur aussi pour l'appui que nous avons reçu. Donc, je vais juste reprendre, donc c'est un bachelor en criminalité que le jeune homme a reçu. En criminologie, pardon. Nous n'avons jamais eu de sécheresse dans la mission, à la mission, alors que le reste du pays, souvent, il y a eu de la sécheresse. Nous avons, Dieu a toujours pourvu, et cela est déjà un miracle en lui-même. Depuis 1965, là-bas, à Kingscliff, j'avais 16 ans à cette époque. La tente avait été installée. Et les frères ont témoigné. Et cela m'a impressionné. Et jusqu'à maintenant, cela continue, que les gens témoignent. Et rien n'a changé. Et au travers de tout ce qui a été, tous les témoignages que nous avons entendus, nous avons été bénis. Et donc, en tant que jeune garçon, je suis sortie et j'ai vu une grand-mère qui avançait tout doucement avec sa canne. Et je lui ai dit, mère ou grand-mère, pourquoi est-ce que tu ne te rends pas à ce culte? Mais elle a continué à marcher. Et alors, je l'ai rencontrée à nouveau à un autre moment. Et elle m'a dit, tu sais pourquoi est-ce que je ne voulais pas rentrer dans cette tente pour ce culte? Parce que je savais que la façon dont j'agissais, en étant une sangoma, une sorcière, tout cela allait prendre fin. Et cela transpercé mon cœur, m'a touchée. Et voilà ce qu'elle a dit. Et que le fait que je lui ai demandé de venir l'avait vraiment touchée, que ce jeune homme se rende vers elle pour lui demander pour l'inviter. Et à travers de cela, donc, cette grand-mère a donné son cœur à Dieu. Et donc, elle était une dame très connue dans le district de Mtunzini. Elle était une responsable. Et elle a pu agir d'une façon fidèlement dans la tâche qui lui était incombée. Et donc, juste cette parole qui avait été mentionnée par un enfant, « Grand-mère, pourquoi est-ce que tu ne viens pas au culte ?» Même si elle n'a pas voulu répondre, cette parole l'a troublée et l'a amenée à la conversion. Et si j'avance plus loin, j'ai été très touchée par la situation avec Mika. Et j'ai pu voir et être témoin que Dieu est vraiment en train d'aider les parents et le reste de la famille. Et j'ai été si bénie quand j'ai vu les enfants et les petits-enfants du pasteur Stegen qui chantait ce matin devant. Le, le pasteur Seguin dit souvent que les enfants ne sont pas nés croyants. Mais vous avez entendu le témoignage de ce jeune garçon et comment le Seigneur lui a montré ses péchés et il venait d'une façon quotidienne confesser ses péchés. Si souvent quand je vois Hulda, je me rappelle mon fils qui est décédé, il avait son âge. Je ne sais pas s'il se serait marié ou pas, mais parce que les choses sont dans les mains de Dieu, c'est ainsi que les choses sont passées. Et Mika s'est même levé pour chanter devant et cela m'a beaucoup touchée. Mon fils a également visité la mission. Il chantait et pendant ce temps, il a mis sa vie en règle et quand il est reparti, il est mort dans un accident de voiture. Et il m'a laissé avec cette parole: Papa, je veux revenir vers mes professeurs et vers les élèves avec lesquels j'étais en classe. Parce que je sais que je vais bientôt mourir. Je ne sais pas s'il avait eu une vision ou un rêve, je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, voilà ce que mon garçon a dit. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais voilà ce qu'il a dit. Et elle a dit, nous allons voir s'il met en pratique ce qu'il a réellement dit. Et en effet, il est allé et a mis les choses en règle. Nous avons entendu ce que le gendre du pasteur Stegen, Arthur, a dit devant nous. Nous ne savons pas si le Seigneur va nous le rendre ou nous le reprendre. Mais il s'est tenu devant avec le reste de la famille et il a chanté. Et il attend également de savoir si Dieu va le reprendre ou le garder. Et j'ai dit, puissions-nous chacun vivre cette vie, puis-je aussi vivre cette vie, que le Seigneur me prenne ou me garde, que je puisse continuer à vivre cette vie. Et cela peut se passer pour chacun d'entre nous. J'ai vu une petite lettre qu'un des enfants de Hulda a écrit. Mika était en Europe et l'enfant avait écrit « Seigneur, ramène-nous-le ». Et c'était adressé au Seigneur. Fais qu'il aille mieux et puis qu'il puisse revenir vers nous. Quand on pouvait à peine comprendre les lettres de ce petit enfant. quand un enfant parle au Seigneur, on peut le comprendre, mais là, c'était difficile à déchiffrer cette lettre. Mais Dieu a entendu et pouvait lire cette lettre. Et il a répondu à cette prière et Mika a pu rentrer. Alors que nous étions rassemblés, j'ai dit, Dieu a répondu à ta prière et nous sommes reconnaissants qu'il a répondu. Après tout ce que nous avons entendu, nous pourrions maintenant clore le culte. Frères et sœurs, j'ai été tellement bénie depuis le début du culte jusqu'à maintenant. Mais il y a une parole sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Nous le trouvons dans le livre des Psaumes. Psaume 24. Nous allons lire à partir de deux livres, donc Ésaïe 59. Ésaïe 59 et donc ensemble avec le psaume 24. Donc ça, c'est le psaume de David. Dans la Bible Zoulou, le titre dit « L'entrée du roi de gloire dans les portes saintes, donc dans son temple ». Nous sommes le temple de Dieu, du Seigneur. Tu vas entendre pourquoi et comment le Seigneur peut régner dans son temple et résider dans son temple. Avant de lire, prions à nouveau. Nous t'invitons, Seigneur, s'il te plaît, d'être avec nous et de bénir ta parole à nouveau. Donc, à partir du premier verset, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Ici, David explique parle de la terre, du monde. C'était facile pour lui de parler de la terre et du monde parce qu'il était roi. Et il nous explique l'état de la situation. Il a dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Et le monde et tous ceux qui vivent. Le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Et cette terre qui a été fondée sur la terre, car il a fondé sur les mers. Si tu prends quelques minutes pour penser et réfléchir à ce monde qui appartient à Jéhovah. tu peux réellement prendre cela à cœur et respecter cette et honorer cette parole que le monde appartient à Dieu, alors les gens n'agiraient pas de la façon dont ils le font. Mais dans ce monde qui appartient au Seigneur, les gens se frappent l'un l'autre, ils se tuent, commettent des crimes dans ce monde qui appartient au Seigneur. Dans ce monde qui appartient à Dieu, les gens sont arrogants, sont fiers, mentent et se souillent de différentes façons. Dans ce monde qui appartient à Dieu, les gens boivent de l'alcool et se souillent de différentes façons. Là où dans ce monde, les gens s'entretuent même dans leur propre famille. Dans ce monde, les gens volent des voitures, ils commettent des vols, ils se battent pour une position et ils sont prêts à s'entretuer. Mais les gens de cette terre devrait avoir un peu de respect parce que ce monde appartient à Dieu. Les gens se haïssent l'un l'autre, ils s'aiment pas, ne se visent pas l'un l'autre dans ce monde qui appartient au Seigneur. Alors, où vont atterrir? Quelle sera la fin de ces personnes? La Bible nous parle de Sodome et de Gomorre et du style de vie qu'ils vivaient, et les gens de nos jours vivent exactement comment les gens vivaient au temps de Sodome et Gomorre, même en ce temps présent. Les gens vivent une vie en tant qu'homosexuel. Une femme et une fille vont se marier, un garçon et un homme vont se marier et avoir des relations ensemble. Et vous voyez comment ils vivent comme au temps de Sodome et Gomorre. Et tu vas voir une fille qui a trois amoureux, et ces trois amoureux se battent l'un en l'autre, et une guerre commence. Tout cela à cause du fait que les gens vivent comme Sodome et Gomorre. Dans ce monde, les gens se battent pour une position, même dans l'église. Ou au travail, ou que ce soit. Et Et on voit qu'une famille est bénie, elle progresse. Et un des membres de la famille va se lever contre sa propre famille juste parce que cette famille est bénie. Ils ont oublié qu'ils appartiennent dans un monde qui appartient à Dieu alors qu'ils vivent cette vie. Regardons au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Laissez-moi vous dire, jour après jour, nous sommes en train de monter. Spirituellement, nous montons. Vous voyez, la famille d'Arthur, jour après jour, ils sont en train de monter cette colline. Ils ne veulent pas se fatiguer sur cette montagne, mais par la grâce de Dieu, ils grimpent cette montagne du Seigneur. Et certains avec qui nous étions préoccupés à monter cette colline du Seigneur, ils nous ont abandonnés et ont tourné leur dos contre nous. Et après qu'ils nous aient abandonnés, ils commencent à dire des mensonges comme nous entendons dans la parole de Dieu. Maintenant, chaque enfant de Dieu doit pouvoir comprendre que tu es en train de grimper la montagne du Seigneur. Parce que jour après jour, nous faisons face à des situations, des challenges qui sont comme une montagne. Mais nous devons monter cette montagne néanmoins ensemble avec Dieu. Vous avez entendu parler de ce jeune homme qui a témoigné où il a grimpé cette montagne au point qu'il arrivait au point où il a pu recevoir un diplôme en étant fidèle. De façon quotidienne, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous devons comprendre que nous sommes dans une ascension et le jour viendra où le Seigneur va nous reprendre. Où nous avons été victorieux. Et la question est posée, qui peut grimper à la montagne de l'Éternel? Est-ce que tu es en train de grimper, de monter, ou est-ce que tu as été interrompu par des choses dans ta vie? Certains essayent de grimper et des filles apparaissent dans leur chemin ou des femmes ou des choses qui les souillent sur leur portable et ces choses les bloquent, les empêchent d'avancer. Certains, alors qu'ils sont en train de grimper la montagne, ils sont ralentis par des pensées qui disent « Mais qui c'est qui va se marier avec moi ?» Et ce jeune homme qui regarde à cette fille et dit « J'aimerais me marier avec cette fille. » Et tout cela sont des pensées qui les bloquent d'avancer, qui les empêchent d'avancer. Et vous avez entendu ce chant que nous avons chanté en tant qu'assemblée, Seigneur, envoie-nous ce feu et touche mes lèvres avec ce charbon ardent. Nous avons chanté ce chant ensemble au début du culte. où nous prions en disant « Seigneur, s'il te plaît, envoie ton feu qu'il puisse brûler parmi nous. » Et nous prions Dieu en disant « Seigneur, déverse ton Esprit Saint parce que nos lèvres ne sont pas pures comme elles devraient être. » Et nous prions dans le culte, envoie ton Esprit Saint parce que nous ne t'avons pas servi comme nous aurions dû le faire. Je ne sais pas si tu n'as pas encore reçu l'Esprit Saint et que tu supplies à Dieu pour ce cadeau. Je ne sais pas comment sont tes lèvres devant Dieu. Mais nous supplions Dieu de descendre et de toucher nos lèvres. Et nous ne savions pas comment Dieu allait descendre. Et quand Dieu est descendu, il a agi d'une façon comme nous ne nous attendions pas. Il a rassemblé les nations ensemble. Alors, comprends ce que j'essaie de dire. Comprends ce que je suis en train de dire. Quand Dieu est descendu, il a rassemblé les nations et les a unies. On n'a fait qu'une. Le pasteur Segen prêchait un message. Il n'y a pas deux ciels. Il n'y a pas un ciel pour les Blancs et un ciel pour les Africains. Et cela est entré dans notre tête et nous l'avons compris. Et Dieu a amené quelque chose de tout nouveau dans notre vie. Auparavant, si nous rentrions dans une maison, nous en tant qu'Africains, nous ne pouvons rentrer que dans la cuisine. Et si on nous donnait à manger, il fallait le manger dehors. Et si tu voyages en pick-up, tu devais te tenir derrière, même s'il n'y avait qu'une personne à l'avant. Et lorsque c'était un pick-up qui n'était pas couvert, nous devions rester sous la pluie et le vent. Et nous ne nous plaignions pas parce que nous savions que c'est ainsi que les choses sont. Que sont les choses. Mais lorsque l'Esprit Saint est descendu, nous étions tous ensemble, nous étions tous cuits dans la même casserole. C'était en 1975 à Kronskop. Et les choses ont changé, nos vies étaient transformées et nous avons ressenti que nous étions tous sur la même montagne. Nous grimpons tous sur la même montagne, la montagne du Seigneur, la même colline. Il n'est pas parlé de plusieurs montagnes, il est parlé d'une montagne ou d'une colline. Tu es passé à côté, alors tu restes en arrière, si tu penses qu'il y a différentes montagnes, il n'y en a qu'une qui doit être grimpée, montée. Et on continuait en disant, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Mes frères et sœurs, nous sommes en route vers le lieu saint. Vous entendez cela? Est-ce que nous allons pouvoir nous tenir dans ce lieu saint un jour? Et nous avons à nous préparer pour se présenter dans ce lieu saint. David dit qu'il y a un lieu saint et nous sommes en route vers ce lieu saint. Et pour nous tenir ainsi, nous aussi, nous devons être saints. Et que ta vie démontre que tu ne vis pas une vie corrompue, mais que tu marches cette vie sainte. Une marche sainte. Et verset 4, il est dit, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. » Vous avez entendu le culte, le sermon qui a été prêché par ce jeune garçon qui a dit « Papa, j'ai besoin de mettre les choses en règle avec Dieu » et le faisait quotidiennement parce qu'il voulait avoir un cœur pur. Alors, devant vous et ce challenge, le fils de ce garçon a dit, je n'ai pas besoin de lui enseigner, cela est venu de lui. Est-ce que nous faisons ça? Alors, mes enfants, quand est-ce que vous, pour la dernière fois, vous avez confessé vos péchés? Vous, parents, vous devez enseigner vos enfants et vérifier s'ils confessent ou non leurs péchés. Et ça, c'est votre tâche. Est-ce que tu rachètes le temps? Et un jour, tu vas te retrouver avec ton enfant qui atterrit en enfer parce que tu ne lui as jamais rien dit. Celui qui a les mains pures, les mains innocentes et le cœur pur, nous devons purifier nos cœurs. Dans la première lettre, Jean, il a dit « Ceux qui ont cette espérance se purifient comme lui est pur. » Et des mains pures qui sont sans reproche. Jeune homme, jeune fille, tu sais comment sont tes mains, si elles sont sans tache ou sans reproche devant Dieu. Est-ce que tes mains sont propres devant Dieu, sans tache devant Dieu? Et celui qui ne lève pas ses mains Excusez-moi. Les gens d'aujourd'hui sont troublés par des mensonges. Même s'ils se disent chrétiens, ils sont troublés par les mensonges. Repens-toi de tes mensonges. Je ne pense pas que quelqu'un peut s'appeler chrétien s'il dit des mensonges. Une personne dit, raconte une histoire et rapporte un peu d'assaisonnement et des mensonges avec. Qu'une personne élève son âme dans ses mensonges et il commence à parler d'une façon frauduleuse. Une personne qui raconte des choses mauvaises sur ses frères est troublée par le mensonge. Et c'est quelque chose de terrible. C'est un esprit méchant. L'esprit du mensonge et de la fausseté. Des mains qui sont innocentes, sans tache. Cain a tué son frère parce qu'il a vu qu'il était béni. Un fils tue son frère parce que il est animé tue son frère par la bouche, par la langue. Certaines personnes peuvent dire, je n'ai jamais répandu le sang, et pourtant tu as répandu le sang de beaucoup de frères ou de sœurs parce que tu as déversé ou dit à travers ta langue. Et toi, en tant qu'enfant, tu dis peut-être ton père ou ta mère te réprimande et tu te sens blessé, offensé par cela. Il y a un chant en Zoulou qui dit « En tant que jeunes, nous avons un évangile qui nous discipline et qui nous rend droit ». Aujourd'hui, les jeunes gens n'aiment pas qu'on les discipline, mais quand tu les disciplines, tu les aides. Je ne parle même pas de l'étape où un jeune homme commence à avoir une voix de basse, l'adolescence, et qui pense qu'il peut faire n'importe quoi. Et dès qu'ils arrivent à l'âge de 21, alors je peux sortir de la maison et quoi que dise mon père ou ma mère. Et c'est là que tu commences à faillir dans ton ascension de la montagne du Seigneur. C'est pourquoi, quand tu sors, tu vois ces bidonvilles, ces maisons branlantes, parce que de tous ces jeunes hommes, ces jeunes gens qui veulent être indépendants et qui ne veulent plus être sous l'autorité de leurs parents, qu'est-ce qui se passe ? c'est vivre la vie de singes. Les singes ne se marient pas. Ils produisent des bébés. Ils se multiplient. C'est terrible que j'aie à dire quelque chose comme cela. Toi, jeune femme ou jeune homme, si tu as des enfants sans étant marié, où vas-tu atterrir? Est-ce que tu es en train de t'élever sur la montagne du Seigneur? Si tu es pressé d'avoir des enfants, est-ce que c'est juste pour avoir des fonds du gouvernement? Une jeune fille a boxé, a frappé son petit copain parce qu'elle n'avait qu'un enfant de lui. Elle en voulait et d'autres. Et parce que tu vas avoir plus d'enfants pour avoir des fonds du gouvernement. Et il y a une expression zoulou pour ces allocations du gouvernement qui n'est pas très jolie à entendre. Dieu ne nous a pas créés juste pour vivre une vie comme les animaux. Dieu a créé le mariage. Alors, lisons ce que dit Ésaïe 59. Je ne sais pas si c'est 51. Le péché et la rédemption. Nous entendons parler. Donc, il y a ceux qui ont été sauvés et ceux qui n'ont pas été sauvés. Verset 1. Non, donc Ésaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure, trop sourde pour entendre. Il y a le fait que tu peux être troublé et que tu n'es pas en bonne santé. Et que tu deviens mieux et tu es guéri. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux dans la vie d'une personne. Si une personne est morte, nous ne restons plus avec elle. Nous pouvons rester avec cette personne et nous devons l'enterrer. En zoulou, le mot pour être sauvé et guéri, c'est le même mot. Et c'est bien si nous sommes guéris spirituellement. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu peux demander pendant des années au point d'être visage bleu, mais il ne peut répondre à tes questions. Tu as été séparé de ton Dieu, dans ma Bible, c'est écrit. S'il y a quelque chose dans ta vie entre Dieu, toi et Dieu, tu as été séparé de Dieu, le visage de Dieu a été caché de toi. Et donc, à Mapumulo, lorsque nous recherchions Dieu, nous avons lu ce verset de l'ascension vers Dieu, et nous avons réalisé que nous ne sommes pas prêts à grimper cette colline. Nous devons mettre les choses en règle avec Dieu. Et chacun a regardé à sa propre vie et nous sommes examinés pour voir là où nous avions chuté dans notre ascension vers le Seigneur. Et lorsque nous avons lu cette parole dans Ésaïe 59, nous avons lu et réalisé que si nous demandons Dieu pour le réveil, Dieu ne pourra répondre à nos prières alors qu'il y a du péché qui nous cache, qui nous empêche de voir la face de Dieu. Il n'y a personne qui devait être... On n'avait pas besoin de dire aux gens d'aller rendre les choses, remettre les choses en règle. Chacun pouvait entendre Dieu lui parler dans son cœur. Alors, comment vont les choses dans tes prières? Alors que tu pries, il y a peut-être du péché dans ton cœur, une rancune contre un frère ou une sœur. En 2019, tu as terminé l'année avec des vieilles choses dans ta vie et tu as repris l'année 2020 avec ces vieilles choses. Est-ce que tu penses que Dieu va répondre à tes prières alors que tu as encore cette rancune et que tu dis pourquoi cette personne ne m'a pas salué, pourquoi elle m'a parlé ainsi? C'est pourquoi tu ne grandis pas spirituellement. C'est pourquoi tes prières ne sont pas acceptables devant Dieu, parce que le visage de Dieu est caché et tu es séparé de Dieu. Demande à Dieu pour quelque chose et regarde si Dieu va te répondre. Quand j'ai demandé à Dieu pour quelque chose, je vais en profondeur, je vais à genoux et devant Dieu et je recherche Dieu, lui supplie et il me répond. Nous avons entendu, nous avons appris cela. Nous avons pris cela lorsque nous avons réellement cherché Dieu. Nous pouvons rester assis sur une chaise ou couchés dans notre lit. Nous allons à genoux et on recherche Dieu avec, en toute honnêteté et vous verrez si Dieu ne répond pas. Et tu as besoin de prier et te séparer, de te mettre à l'écart, où tu dois être seul devant Dieu, sans tes enfants, sans ta femme, et voir si Dieu ne te répond pas. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Comment sont nos lèvres? Avons-nous proféré des mensonges? Nous ne sommes pas tachés de péché qui nous sépare de Dieu. Une personne a besoin de s'examiner . Est-ce que Dieu peut encore me parler? Peut-être certains ne savent même pas comment Dieu parle. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de savoir ce que cela signifie et comment Dieu te parle. Peut-être que Dieu t'a parlé. Peut-être que Dieu t'a dit, quand ce culte se termine, tu restes en arrière. Et peut-être tu ignores cela alors que Dieu même t'a parlé. Moïse était d'un différent calibre. Quand Dieu lui a dit que le cœur de Pharaon serait endurci, il s'est encore rendu vers Pharaon et il a obéi Dieu. Je ne sais pas si parmi nous, ceux qui entendent ce message, s'il n'y en a pas certains qui ont endurci leur cœur envers Dieu. Et peut-être là où Dieu a même dit, je vais endurcir le cœur de cette personne, que j'entende ce culte à la radio ou ailleurs, et que ton cœur s'est endurci. Juste par tes conversations légères, tes petites plaisanteries, tu blesses les autres, mais tu ne le ressens même pas parce que tu ne réalises pas que tu es en train de blesser une personne au travers de cela. Je conclus. Je finis. Nous remercions le Seigneur pour son message. Et j'ai confiance que si tu es déterminé à monter la montagne de l'Éternel, que cela a résonné en toi-même et que tu as conscience de ces paroles qui ont frappé ton cœur. Tu as pris conscience de ces paroles. C'est sa montagne, ce n'est pas ta montagne. Il est propriétaire de cette montagne et il le voit et il va te récompenser. N'est-ce pas merveilleux? David et Ésaïe qui vivaient à différentes époques et qui transmettent le même message. Ils connaissaient le mont du Seigneur, la montagne du Seigneur. Alors, si tu veux les rejoindre, comme nous l'avons entendu, si tu veux rejoindre ceux qui montent la montagne de l'Éternel, alors tu vas expérimenter une communion. Tu vas expérimenter cette unité. Parce que c'est la montagne de Dieu, ce n'est pas ta montagne, ta foi. C'est Dieu qui œuvre, qui agit en toi. Nous remercions le Seigneur. C'est un temps où chacun doit examiner son cœur. Examine tes mains, ta langue, tes yeux, ta marche. Tu veux atteindre ce lieu saint que dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci parce que ta lumière céleste a brillé sur chaque endroit secret de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ta parole. Si nous voulons recevoir cette bénédiction de toi, nous avons entendu comment nous pouvons l'obtenir. Accorde cette volonté et cette fidélité par ta grâce. Merci parce que après le culte, nous avons l'occasion, l'opportunité de venir à la croix. Là où nous pouvons être nettoyés, purifiés et avoir une nouvelle vie. Une vie qui est unie en toi, avec toi. Et nous voulons te remercier parce que tu nous as parlé. Puissions-nous chérir et garder ta parole. Et nous garder alors que nous nous séparons et pour les prochains jours qui sont devant nous. Amen.